Bonjour à vous et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. Dans un instant, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre qui reçoit ce matin Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Il sera question, entre autres, de la crise des urgences et plus généralement de notre système de santé. D'abord, les principaux titres de l'actualité de ce samedi 28 mai. Comment combattre le mal dans notre société en armant les citoyens? Ce sont les mots de Donald Trump la nuit dernière lors de la convention de la NRA, le premier lobby américain des armes. L'ancien président s'exprimait quelques jours seulement après la fusillade qui a coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas. En Ukraine, il y a eu le martyr de Mariupol. Cette fois, c'est Severodonetsk qui subit des bombardements incessants. Image terrible de la situation dans le Donbass. La ville est encerclée, 60% des logements détruits. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, assure malgré tout que le Donbass restera ukrainien. Et puis Paris a un accent très anglais à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Affiche de rêve à suivre sur Canal+ ce soir. En attendant, des milliers de supporters anglais affluent dans la capitale. 7000 policiers, gendarmes et pompiers vont veiller à la sécurité. Tout de suite, c'est l'interview Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Merci Isabelle, bonjour à tous. Bienvenue docteur Philippe Juvin, vous êtes médecin et politique. Le médecin, vous rentrez d'Ukraine, le politique, est-ce qu'il s'interroge sur l'état des siens, les Républicains à l'air, sur l'état du pays, sur l'état du gouvernement d'Emmanuel Borne? Bonjour. Dans votre hôpital, est-ce que vous manquez vous aussi de personnel soignant pour les urgences? Et il n'y a pas que les urgences.
Mais monsieur Elkabbach, dans tous les hôpitaux de France, aujourd'hui, on manque de personnel. Il n'y a pas que dans mon hôpital. Et encore, je pense que mon hôpital est un de ceux qui s'en sort le mieux, probablement. Nous sommes à Paris. À Chinon, il y a deux jours, à Chinon, il n'y avait qu'une seule infirmière aux urgences qui n'était pas en arrêt de travail. C'est une situation extrêmement grave. Je suis très inquiet, moi et tous mes collègues, ainsi que les autorités sanitaires qui le disent avec des mots plus polis. Mais nous pensons que l'été va être très difficile. Et je vous le dis très simplement, si rien n'est fait, si on ne change rien durant cet été, je ne sais pas comment on va passer cet été, on peut avoir des morts.
Des morts?
Bien entendu.
Vous ne dramatisez pas, là?
Mais non, vous savez, il y a un moment où il faut dire les choses. La vérité, elle est quoi? C'est qu'il y a des services aujourd'hui qui fonctionnent avec peu de médecins, peu d'infirmières, peu d'aides-soignantes. Il y a des blocs opératoires qui sont fermés. Il y a des gens qu'on ne peut pas opérer. C'est ça, la réalité du système de santé. Pendant des années, on a dit que le système de santé français était le meilleur du monde. Nous l'avons cru.
Donc pendant des années, on nous a menti.
Pendant des années, nous l'avons
cru.
Des années, nous l'avons collectivement cru. Et manifestement, ce n'est évidemment plus le cas. Comment appelez-vous un système où vous pouvez mettre des semaines à être opéré et vous pouvez mettre des semaines à avoir un examen complémentaire et que vous devez aller aux urgences parce que vous n'avez pas d'alternative quand vous n'avez pas de médecin en ville?
Oui. Et est-ce qu'on ne peut pas associer les médecins en ville, les médecins de ville, pour faire des gardes à leur tour? Il y a l'idée qui est en train d'avancer. Est-ce que vous seriez favorable?
Non, mais tout ça, c'est très bien, c'est très beau. Ce sont des rustines, ce sont des visions administratives. Pourquoi? Parce que les médecins de ville sont aussi crevés et usés que nous le sommes, nous, à l'hôpital. Tout le monde travaille d'une manière absolument démente, pour des salaires de misère et dans des conditions de travail qui sont terribles. Je crois que la colonne vertébrale d'une réforme de système de santé, c'est d'abord prendre soin des soignants. Pendant des années, on a dit les hôpitaux...
Les soignants plutôt que les malades. Mais pourquoi vous dites été catastrophique, été meurtrier?
Pendant des années, on a dit...
Non, mais là, nous annoncez ce qui va arriver dans trois mois, dans deux mois.
Je vous le dis très simplement. Je connais des endroits où il y aura des trous dans les listes de garde. Il y a encore quelques jours, alors qu'il y a environ 700 services d'urgence en France, il y en avait 100 ou 120 qui fermaient totalement ou partiellement des services d'urgence fermés.
C'est mais quel secteur ça concerne?
Quelque chose qu'on n'a jamais vu faire. Pardon ?
Quel secteur ça concerne ?
Les services d'urgence, 100 ou 120 services d'urgence fermés. C'est-à-dire que vous arrivez, la porte est fermée. Alors évidemment, on met en place des éléments de sécurité au cas où vous auriez une pathologie vitale, etc. Mais on voit bien que le système est à l'os et il faut lui redonner un coup de réanimation.
Alors les soignants, il faut les protéger, oui. Les malades aussi. Oui. Vous avez dit qu'il y a les urgences, mais est-ce qu'il n'y a pas les maternités, d'autres secteurs ?
Les urgences, pourquoi on en parle ? Parce que c'est évidemment la vitrine de l'hôpital. Mais les urgences, c'est cette interaction entre la médecine de ville et l'hôpital. Mais devant, la médecine de ville souffre aussi, et l'hôpital également. Des blocs opératoires sont fermés, des maternités. Les maternités. Moi, je connais des endroits où il risque de ne pas y avoir suffisamment de sages-femmes pour assurer les accouchements cet été. Donc oui, je vous le dis, la situation est très grave. Il y a des solutions qu'il faut mettre sur la table, mais il faut les mettre...
Les cancers, vite. Parce qu'on nous dit souvent, les cancers qui sont ni diagnostiqués, ni soignés.
Vous savez, malheureusement, on pourrait faire la liste de toutes les pathologies. Ce qu'on considère, c'est que les trois types de pathologies qu'on soigne avec retard aujourd'hui, et pour lesquelles nous aurons du retard, qu'on va mettre des années probablement à écluser, ce sont les maladies du cancer, les maladies du cœur et les maladies psychiatriques. Ces trois types de pathologies, on prend actuellement du retard à les prendre en charge. Pourquoi ? Pas de bloc opératoire, des radiographies difficiles à obtenir, des endoscopies longues à faire, etc.
Donc c'est une alerte. L'hôpital est mal organisé, mal géré, vous le dites, depuis des années.
Vous savez qu'il y a autant d'administratifs à l'hôpital public.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas deux
autant d'administratifs
deux pouvoirs.
Que de médecins.
Oui, deux
pardon,
ce n'est
pas une question de pouvoir.
Je n'ai pas fini ma phrase. Deux pouvoirs qui s'affrontent et se neutralisent, vous avez l'air de le dire. Le pouvoir administratif qui est très puissant et les médecins. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de simplifier dans l'intérêt des malades?
Alors, je ne le dirai pas comme ça. Je pense qu'il faut...
Vous pouvez oser.
Je vous dis ce que je pense, surtout. Je pense que d'abord, il faut effectivement médicaliser les décisions à l'hôpital, mais plus encore, faire en sorte que l'argent... On met beaucoup d'argent dans le système de santé, c'est ça qui est paradoxal.
19 milliards maintenant avec le Ségur.
Il faut que l'argent aille aux soins. L'argent aille aux soins. Vous savez qu'à l'hôpital public, il y a plus d'emplois administratifs que d'équivalents temps plein de médecins, de dentistes ou de pharmaciens. Donc, mettons de l'argent, mais que cet argent aille aux soins réellement et pas dans une sorte
donc,
de...
Donc, une meilleure gestion. Ce matin, par exemple, qu'est-ce que vous demandez à Brigitte Bourguignon, qui est la nouvelle ministre de la Santé?
Alors, je ne lui demande rien. Elle vient d'arriver. Elle fait comme elle peut. Je lui conseille rapidement d'améliorer les salaires des nuits et des week-ends. Parce que vous savez, quand vous rentrez chez vous après une nuit où vous êtes plein de sang, pardon d'être un peu cru, plein de merde, crevé, fatigué, vous avez vu des gens qui ont failli mourir deux ou trois fois dans la nuit, vous ne rentrez pas chez vous tranquillement en vous mettant chez vous à vous prendre votre café. Vous êtes usé. Une infirmière, la nuit, elle gagne, en plus de son salaire de jour, par heure, 1,07 €. 1,07 €
donc,
par heure.
Quelles que soient les augmentations, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut augmenter les salaires
de nuit et
est-ce qu'il ne faut pas plus de considération pour ces personnels
de nuit et de week-end? Deuxièmement, il faut... considérer qu'il faut prendre soin des soignants, ce que je vous disais tout à l'heure. On prend soin des machines, des blocs opératoires, des bâtiments. Prenons soin de la plus grande richesse du système de santé que sont les gens. Et puis, troisièmement, il faut former du monde. Le vrai sujet, c'est qu'on ne forme pas suffisamment de monde.
Depuis longtemps, pour les avoir aujourd'hui.
Mais depuis des années, monsieur El-Kabbach, depuis 20 ou 30 ans. C'est absolument fou. Moi, ça fait des mois que je dis dans le débat politique qu'il faut doubler le numerus clausus, le doubler. Pas l'augmentation de 10%, mais le doubler. Tout le monde me dit « ouais, 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 ouais ». Les Anglais, la semaine dernière, d'accord, ont décidé de faire ça. On double le nombre de médecins.
Oui, mais ils sont encore plus en retard que nous. Et combien d'années il faudrait pour que les gens recrutés aujourd'hui puissent fonctionner, soigner?
Oui, peut-être, mais il faudrait déjà commencer. Alors, donc, d'accord, on double le nombre de gens en formation. Et deuxièmement, on leur donne des conditions de travail qui sont des conditions qui sont normales. Des systèmes informatiques qui fonctionnent, des téléphones qui fonctionnent. Vous voyez, c'est ça aussi, la vie, oui, bah, la considération qu'on donne.
Dans quel état est la santé publique en France, dans ce que vous dites? Et donc, vous pouvez le demander à Mme Bourguignon, même si elle vient d'arriver.
Je lui suggère.
Vous avez dit, le corps social explose aujourd'hui. Oui. Les partis doivent travailler ensemble. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, avec le gouvernement d'Elisabeth Borne?
Je suis prêt à ce que je suis en train de faire là, donner des conseils. Bon, écoutez, je suis un homme modéré. Je pense que le pays est tellement fractionné qu'on ne peut pas se payer le luxe de
se diviser.
Qui se divisent. Donc moi, je suis membre des Républicains. Je suis d'ailleurs candidat des Républicains. Et je vous dis les choses très simplement. Je pense que le pays va tellement mal que nous devons tous travailler ensemble. Mais pour ça, malheureusement, il faut que les uns et les autres le veuillent.
Oui.
Et
moi, mais alors, qui ne veut pas? Plutôt dans votre camp, non?
Non, pas du tout. J'ai entendu le président de la République dire qu'il était prêt à travailler avec tout le monde. Eh bien, j'attends de voir ce qu'il en est vraiment.
C'est une offre d'emploi, quoi.
Non, j'attends de voir ce qu'il en est vraiment.
La campagne des législatives impose un devoir de réserve au gouvernement et à ses ministres. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement qui est un gouvernement d'intérim?
D'abord, moi, je ne comprends pas le droit de réserve quand l'hôpital est en train de craquer. C'est quoi cette histoire où on voit qu'on a des services d'urgence qui sont fermés, on nous dit que c'est le droit de réserve. Donc moi, je vous dis, le droit de réserve, c'est après l'intérêt des Français.
Oui, voilà. Mais attendez, les élections législatives, c'est encore trois semaines.
Monsieur Le Cabage, je pense que le gouvernement, il vient d'arriver. Je ne vais pas juger un gouvernement qui est là depuis trois semaines. Moi, je fais crédit aux gens de bonne volonté de vouloir travailler. Le directeur de cabinet, par exemple, de Mme Borne, est un type remarquable. C'est l'ancien patron de l'Agence régionale de santé de France, Aurélien Rousseau. Ça va être le patron de l'administration française. Eh bien, je lui dis bonne chance et j'espère qu'il réussira. Voilà, je suis un homme de bonne volonté.
D'accord, mais est-ce que vous dites à vos amis républicains LR d'avoir à peu près la même attitude ou déjà de ne pas s'installer dans une opposition systématique?
Alors, d'abord, pardon, il est normal en démocratie qu'il y ait une opposition.
Oui.
C'est pas scandaleux de ne pas penser.
Mais comme vous dites, il faut attendre au moins qu'il y ait la politique générale de ce gouvernement qui arrive.
C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est dans une opposition entre guillemets systématique. On peut être dans une opposition intelligente et je pense que c'est ce que nous sommes aux Républicains. Il faut arrêter de nous caricaturer, vous voyez.
Vous avez dit, plus que de disperser des milliards, il faut des libertés. Vous l'avez dit le 18 mai lors d'un meeting. Ça, c'est de la pure démagogie. Venant de vous, j'étais surpris. Parce que, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont besoin de manger, à ceux qui ont faim, à ceux qui souffrent, comme vous l'avez dit aujourd'hui, vous offrez pas du pain, pas du travail, mais des libertés qu'ils ont déjà, honnêtement.
Vous citez trois mots d'un meeting. Ce que je veux dire, c'est très simple, c'est qu'il y a évidemment des questions d'argent. On le voit, l'hôpital a besoin d'argent qui aille aux soins et pas plus d'argent, je pense d'ailleurs. Et deuxièmement, on a besoin dans ce pays de faire confiance aux intelligences des individus. Vous savez, Raymond Aron disait, une société prospère, c'est une société qui s'appuie sur les potentialités des individus. Et donc, je pense qu'il faut donner des libertés au sens de libérer les potentialités des uns et des autres. L'hôpital a bien fonctionné, durant le Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé les médecins et les infirmières travailler. C'est ça que je veux dire. Laissons dans ce métier les gens qui savent faire.
Oui. Vous venez de passer deux semaines en Ukraine pour soigner des blessés de guerre, d'une guerre qui continue sa sinistre besogne. Où étiez-vous ?
J'étais à Lviv, qui est une grande ville à l'ouest de...
Oui. Et qui est moins touchée que les autres villes.
Oui, mais qui est quand même touchée. Et jusqu'au ce qu'on appelle le front biélorusse, qui est le nord, donc sur 400 kilomètres, tous les jours, je changeais de ville. Tous les jours, je changeais d'hôpital, à la fois pour donner des cours dans des hôpitaux ou des centres de formation de civils. Et j'ai donné des cours à des soldats sur le front biélorusse.
Mais qui vous avez envoyé ?
Personne.
J'y suis allé. Vous êtes parti avec un sac à dos ?
Avec deux sacs à dos.
Ah oui. Et alors, vous avez soigné des civils, des militaires, des combattants, etc.
J'ai surtout formé, la plupart de mon temps, c'était de la formation des militaires et des civils à ce qu'on appelle le sauvetage au combat.
Et de quoi souffrent-ils surtout ?
D'abord de tout, ce sont des traumatismes. J'ai été frappé par les traumatismes psychologiques, et il y a une histoire qu'on m'a racontée, de blessés dans l'est du pays, qui sont blessés par les bombardements, qui restent 20 jours dans leur cave, dans la crasse, avec leurs blessures non soignées, qui arrivent à s'extraire de leur cave et qui arrivent à le vivre 20 jours plus tard, monsieur El Kabache, qui sont hospitalisés. Et là, la sirène sonne, parce qu'elle sonne 15 fois par jour, l'alerte aérienne, et ils se mettent à courir partout dans les chambres et dans les couloirs de l'hôpital de Lviv où j'étais. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. Il y a des blessures psychologiques et des blessures physiques.
D'accord. Est-ce que vous avez soigné des blessés russes ?
Non, je n'ai pas vu de Russes. Ouais. Là où j'étais, il n'y avait pas de Russes.
Ah bon ? Il n'y avait pas.
Mais vous savez, j'ai été militaire.
Mais vous auriez soigné des blessés russes ?
J'étais médecin militaire en Afghanistan il y a 12 ans. J'ai soigné des Américains, des Anglais, des Français et des Talibans.
Ouais. Vous avez dit c'est une guerre sale.
Oui, c'est une guerre sale. Pourquoi ?
Mais je me suis demandé si vous avez trouvé qu'il y a des guerres propres. Ouais. Dès qu'il y a une guerre, on tue, on détruit, on blesse.
Bien sûr. C'est une guerre criminelle et toutes les guerres ne sont pas criminelles, monsieur El Kabache. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre dans laquelle les Russes tapent des objectifs qui ne sont pas militaires.
Mais ils disent que derrière les écoles, il y a souvent des installations militaires.
Écoutez, moi, un jour, j'ai donné un cours dans un bâtiment où il y avait une école. Il y a eu une alerte, on a dû descendre à la cave. Et je peux vous assurer que les enfants, c'était des vrais enfants, ce n'était pas des militaires déguisés. Donc c'est une guerre sale parce que les Russes tapent les civils.
Alors il y a un frère, j'ai envie de l'appeler un frère courageux, qui est Zelensky, un grand président, avocat dans le monde entier pour le peuple ukrainien. Et aujourd'hui, il y a des Occidentaux qui pensent, sans le dire, qu'il en fait trop, qu'il donne trop de leçons.
Je crois que quand vous êtes attaqué, vous n'en faites jamais trop. Est-ce que Churchill en a fait trop ? Est-ce que De Gaulle en a fait trop ?
Il en parlait moins.
Certains pensaient à Vichy que De Gaulle en faisait trop.
Oui, c'est très bien de montrer ce que vous voulez dire. Est-ce que vous demandez à des médecins français d'aller porter secours eux-mêmes et avec du matériel médical comme vous l'avez fait, mais avec un médical plus lourd.
Ce qui leur manque, ce n'est pas tant des médecins, ils en ont suffisamment, c'est du matériel chirurgical en particulier. Je l'ai expliqué plusieurs fois, les autorités françaises peuvent, si elles le souhaitent, rapatrier des blessés de guerre là-bas, les opérer en Europe et les renvoyer. Ça s'appellerait de la diplomatie sanitaire et ce serait intelligent.
Vous êtes maire de Garenne-Colombes.
La Garenne-Colombes.
Oui, la Garenne-Colombes, très vite. Vous avez beaucoup de réfugiés ?
J'ai environ 25 familles à la Garenne et j'ai moi-même accueilli chez moi pendant plusieurs jours trois Ukrainiens.
Des Ukrainiens, surtout. Oui. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup Jean-Pierre Alcabache. Merci à vous Philippe Juvin. Et demain, Jean-Pierre, vous recevrez Karl Olive, le maire La République En Marche de la ville de Poissy dans les Yvelines et accessoirement grand amateur de football alors que ce soir se tient cette finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Tout de suite, l'actualité en bref, Elisa Lukavski.
Le parent d'élève grièvement blessé début mai lors d'une attaque avec un couteau devant un établissement scolaire de Marseille est hier décédé des suites de ses blessures. Âgé d'une trentaine d'années, ce père de famille avait été touché au thorax alors qu'il venait récupérer ses enfants. Les premières vaccinations contre la variole du singe ont commencé en France. Deux personnes considérées comme ayant eu un contact à risque avec un malade ont hier été vaccinées à l'hôpital Bichat de Paris. Selon le dernier bilan, la France compte 7 cas avérés de variole du singe. Et puis du sport avec le premier titre européen pour le Loup. Lyon qui a hier remporté la finale du Challenge européen grâce à sa victoire 30-12 face à Toulon. Les Lyonnais auteurs de 3 essais, notamment avec Kouyou et Barassi, succèdent au palmarès à Montpellier qui avait remporté le Challenge européen l'an passé. Les Toulonnais perdent de leur côté leur 4e finale dans la compétition.
Merci Elisa. Dans un instant, la matinale week-end revient avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Nous parlerons évidemment de cette fusillade au Texas il y a 4 jours. Le congrès de la NRA qui se tenait la nuit dernière et les mots de Donald Trump qui appelle à armer les citoyens. Nous reviendrons également sur la situation tragique dans le Donbass en Ukraine. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
minutes, très exactement dans la matinale week-end. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Politologue et face à vous ce matin, Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume.
Bonjour Isabelle.
Rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 28 mai. Nous sommes 4 jours maintenant après la fusillade qui a fait 21 morts dans cette petite école du Texas. Donald Trump appelle à armer les citoyens pour combattre, je cite, le mal dans notre société. L'ancien président américain s'exprimait la nuit dernière dans une intervention très attendue au congrès de la NRA. C'est le premier lobby américain des armes. On en débat dans un instant, juste après les précisions de notre correspondant Ramzi Malouki.
Contrairement à certains, je suis présent. C'est ainsi que Donald Trump a commencé ce discours très attendu au congrès de la NRA, le lobby des armes. Une attaque adressée directement au gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui, à la dernière minute, a décidé d'annuler sa présence à ce congrès pour se rendre à Uvalde, la ville où a eu lieu la tuerie. Donald Trump, qui a demandé une minute de silence en mémoire des victimes, qui a lu le nom de ses victimes avant de déclarer qu'il était là à ce congrès pour défendre le droit de tout citoyen américain de posséder une arme. Alors il propose, pour éviter des tragédies comme celle de Uvalde, de sécuriser les écoles avec plus de policiers, d'armer les enseignants et de repérer, dit-il, le plus tôt possible les troubles mentaux. Il reprend ainsi les mêmes arguments que la NRA. La NRA qui, je le rappelle, a financé ses 2 campagnes pour l'élection présidentielle. Justement, le discours de Donald Trump a ensuite pris des allures de meeting de campagne, 45 minutes pendant lesquelles Donald Trump a fait le bilan de son mandat, le plus exceptionnel de l'histoire des États-Unis, selon lui. Il a attaqué à plusieurs reprises Joe Biden et il a remis sur le tapis l'élection truquée, les failles de l'immigration, le mur, en terminant sur une phrase qu'attendaient les milliers de spectateurs présents à ce congrès de la NRA. Nous serons de retour à la Maison-Blanche.
Voilà pour les précisions de Ramzi Malouki. Guillaume Bigot, ce qui semble assez improbable, c'est que ce congrès, c'était un hasard du calendrier, oui, qu'il se trouve là. 4 jours après cette fusillade, cette tragédie, on imaginait qu'au contraire, peut-être ce serait l'occasion de faire profil bas. C'est exactement l'inverse qui se produit à travers le discours qu'on vient d'entendre de Donald Trump, qui appelle au contraire à armer encore davantage les citoyens. Juste pour information, on est à quasiment 400 millions d'armes qui circulent aux États-Unis sur 320 millions d'habitants à peu près.
Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une sorte de la malédiction des armes.
le goût et le fléau des armes, c'est propre à l'Amérique, on le sait, l'histoire américaine, le deuxième amendement, on y reviendra sans doute. Mais ce qui est vrai, là où il y a une malédiction, c'est que plus il y a de tueries de ce genre, et plus ça offre aussi un prétexte pour armer les braves gens, les gens décents, etc., avec l'idée qu'on va pouvoir se défendre si soi-même on est armé, parce qu'il y a des méchantes personnes, il y a des détraqués, des racistes, etc., qui tirent sur tout le monde. Mais là où on revient sur Trump un instant, c'est que c'est vraiment c'est une bête de cirque. Enfin, c'est un animal politique absolument hors norme. Beaucoup se seraient effectivement défilés. Il est connu pour être bravache, même avoir une espèce d'incroyable audace. Alors là, il y a été. Non seulement il ne s'est pas défilé, mais tel le judoka, il a retourné les arguments de ses adversaires en disant « Mais finalement, il y a d'épouvantables démocrates obscènes qui sont capables d'utiliser ces morts pour nous dire qu'il faudrait désarmer le peuple américain et déchirer la Constitution. Quelle horreur, quelle horreur !» Et donc, il a retourné totalement cette situation. Alors, ça fait de lui, disons, un extraordinaire politicien. Mais évidemment, ça fait de lui un piètre chef d'État. Le chef d'État, c'est Mandela dans le beau film Invictus, qui n'hésite pas à aller contre sa base, puisque les militants noirs, après l'abolition de l'apartheid, voulaient absolument supprimer le rugby, qui était le sport des Blancs. Et Mandela les prend à revers, il leur dit « Mais non, quand on fait l'histoire, on fait des choses qui sont surprenantes, et moi, justement, parce que je suis votre chef, je vous demande de supporter l'équipe de rugby. » Donc là où Donald Trump, à un moment, a été grand, c'est quand lui, le milliardaire de Wall Street, a pris la défense des petits et des sans graves, vous savez, le panier des déplorables, comme disait l'épouvantable Hillary Clinton. Donc là, il a été grand parce qu'il a joué contre son camp d'une certaine façon et il a brisé les reins des Chinois en baissant, enfin en augmentant les droits de douane et en améliorant la situation de l'industrie américaine. Là, il était grand. Mais là, il se couche complètement devant les lobbies et dans le conformisme le plus absolu.
Il se couche avec en ligne de mire, c'est ce que nous disait Ramzi Malouki à l'instant, dans 2 ans, une prochaine élection où il a vraisemblablement l'intention de se présenter et de l'emporter.
Oui, bien sûr, mais c'est un univers culturel qui est très loin de celui des Européens. Il faut rappeler, pour essayer de le comprendre, que la révolution américaine s'est faite contre l'occupant anglais. Les Américains ont chassé le roi d'Angleterre, George III, les armes à la main, et que avec l'aide des Français, absolument, mais quand ils ont adopté la Constitution qui est toujours en vigueur, la Constitution de 1787, une grande partie des Américains étaient contre le simple fait du fédéralisme en disant on n'a pas chassé le roi d'Angleterre pour avoir un roi à Washington. Et donc il y a eu un compromis politique. Et une partie des Américains n'ont accepté la Constitution que si on leur garantissait un certain nombre de droits dans les 10 premiers amendements, notamment le fameux deuxième amendement. Qu'est-ce qu'il dit ? Le droit du peuple, je cite, « le droit du peuple de porter des armes ne sera pas entravé ». Voilà, c'est ça qu'il y a dans le deuxième amendement. Alors, ça voulait dire que chaque État avait le droit d'avoir une garde nationale dans les États-Unis de l'époque, c'est ça que ça voulait dire. Mais c'est interprété de façon très large par la Cour suprême et ça conforte ses cultures des armes en lui donnant une espèce de noblesse. C'est pas une poignée de fanatiques seulement. Dans la mentalité américaine, le droit d'avoir des armes, c'est l'assurance que vous pouvez vous protéger, vous et votre famille, en cas d'agression de quelqu'un qui vient porter atteinte à votre liberté. Et ça explique, si vous voulez, qu'il faut quand même dire qu'il n'y a pas que des fanatiques dans les rangs de la NRA. Vous avez aussi le père de famille qui veut continuer à aller chasser le canard le dimanche. Évidemment, ce lobby met les modérés en avant pour masquer le fait qu'on vend des armes de guerre à des déséquilibrés. Mais il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre la complexité du problème.
Vous évoquez la différence de culture, Guillaume Perrault, mais Guillaume Bigot, il y a aussi le rapport à l'État. On n'a pas du tout le même en France, on entend de l'État qui nous protège. Aux États-Unis, c'est à chaque citoyen ou à chaque père de famille, pour reprendre l'expression, de protéger sa famille.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est, disons, sur l'idée de Hobbes, c'est-à-dire repris par Weber, le monopole de la violence légitime. Il est bon que les citoyens, la population ne soit pas armée et qu'on confie le monopole d'avoir des armes létales, police et armée, à l'État. Eux, dans la mentalité américaine, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est plutôt John Locke, c'est un autre philosophe anglais, qui dit, mais il faut se défendre, mais y compris contre l'État, finalement. Et il faut défendre sa propriété avec des armes, y compris contre l'État. Autrement dit, pour un Américain, il y a cette expression très forte dans la culture américaine qui dit « stand your ground ». C'est-à-dire, j'ai ma Bible, j'ai mon fusil et j'ai ma maison, et c'est à moi de me défendre. Alors, c'est à moi de me défendre, effectivement, contre les voyous. À la rigueur, on peut comprendre, et c'est ancré dans l'histoire américaine. N'oubliez pas la conquête de l'Ouest, mais n'oubliez pas aussi que des hommes blancs, minorités dans les 16 colonies, étaient avec énormément d'esclaves noirs, parce que les milices bien armées dont il est question dans le deuxième amendement, c'est aussi, ça fait aussi référence à des milices qui étaient chargées de rattraper les noirs qui se sauvaient. Donc toute cette violence un peu subsumée, toute cette violence de l'histoire américaine est là, mais ce qui est incroyable et incompréhensible pour nous, c'est que l'Américain avec son fusil, il peut y compris défendre sa propriété contre l'État, contre des ingérences de l'État. Et ça, c'est inconcevable pour nous.
On continue d'en parler juste après les principaux titres de l'actualité. Elisa Lukaski, il est 8h30.
Elisabeth Borne sur le terrain après son passage dans le Calvados hier à Condé en Normandie. La première ministre sera à partir de 10h sur le marché d'Aunay-sur-Odon. Au programme tractage et déambulation pour être au plus près des citoyens dans un département où Elisabeth Borne est candidate pour les législatives. Jour J pour la finale de la Ligue des Champions à 21h, Liverpool affronte le Real Madrid de Karim Benzema, 13 fois vainqueur de la compétition. Un match qui a lieu au Stade de France. À quelques heures du coup d'envoi, vous le voyez, l'ambiance monte dans les rues parisiennes avec les supporters des deux équipes venus en nombre. Un match qui sera à suivre sur Canal+. Et puis le Grand Prix de Monaco également à suivre sur Canal+, et Charles Leclerc qui est chez lui dans la principauté. Le pilote Ferrari, il a survolé les premiers essais libres hier. Cet après-midi, place aux qualifications dès 15h45 avant le départ de la course demain à 15h.
Merci Elisa. Pour conclure sur les États-Unis et la prolifération des armes, on pourrait quand même parler aussi de la politique, parce que Donald Trump, effectivement, lance un message très clair. Hein, je suis présent et je serai dans la course pour la prochaine élection présidentielle. Joe Biden est, lui, attendu demain à Uvalde. Guillaume Bigot, il a un message très important à faire passer. On l'a finalement très peu entendu politiquement sur la question des armes.
Il va faire du contre-Trump, mais comme à chaque fois, on est aussi surpris. C'est un peu vraiment le Montesquieu. Hein, c'est comment peut-on être persan, c'est comment peut-on être américain, parce qu'on veut importer ce débat chez nous. Alors oui ou non, est-ce qu'il faut limiter l'avortement en France? Mais non, c'est les Américains qui se posent la question. Oui ou non, faut-il faire circuler les armes chez nous? Mais non, c'est les Américains qui se posent la question. Ils nous ressemblent, on est fascinés par eux, mais plus on les regarde et plus on se dit c'est vraiment un autre univers. Donc je pense que la démocratie américaine, même si Joe Biden est soutenu sur cette question-là par la majorité du peuple américain, au sens de la démocratie pure, hein, un homme, une voix, il faut bien comprendre que la démocratie américaine, ce principe de démocratie pure est limité par deux principes. Le premier principe, c'est le principe fédéral, c'est le droit fédéral. D'ailleurs, après la tuerie de Sandy Hook, il y a eu un grand vote, et c'était très clair, vous aviez une majorité d'États qui étaient contre, et c'était même pas l'interdiction des armes, c'était vraiment l'encadrement au plan fédéral de la détention des armes, des conditions, par exemple, pour vérifier que les gens qui achètent des armes n'ont pas de casier judiciaire, que les gens qui achètent des armes n'ont pas de problèmes psychiatriques, etc. Donc vous aviez une majorité d'États qui étaient contre cette limitation, au nom du deuxième amendement. Et vous aviez une minorité d'États qui était pour. Mais la minorité d'États pesait 150 millions d'Américains. La majorité d'États pesait 100 millions ou 108 millions d'Américains. Donc on voit bien que le système fédéral n'est pas un système de démocratie pure, évidemment. Ce n'est pas un homme, une voix, c'est aussi un État, une voix. Et puis vous avez le phénomène de la NRA. C'est-à-dire on voit bien, finalement, que les lobbies, c'est-à-dire un principe, un dollar, une voix, ce n'est pas un homme, une voix, que l'argent corrompt profondément le système politique américain. Et d'où l'idée de l'Europe. C'est-à-dire on voit bien que l'Europe, ça ne sera plus la démocratie directe et les lobbies sont chez eux à Bruxelles. C'est ça qu'on veut nous vendre.
Oui, juste sur l'aspect juridique, pour réviser le deuxième amendement, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que dans chaque chambre du Congrès américain, il y ait une majorité des deux tiers, et après que le texte soit ratifié par les trois quarts des États, c'est-à-dire 38 sur 50. Donc c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas impossible, parce que c'est comme ça que la prohibition a été instituée. On a fait un amendement, donc il y a eu un mouvement d'opinion massif pour la prohibition, puis contre la prohibition, il y a eu un autre amendement pour abroger l'amendement précédent 12 ans plus tard, en 1932.
Et ce n'était pas constitutionnel.
Mais là, C'était des amendements qui ont permis d'instituer la prohibition, puis de l'abroger. Donc, de la même façon, on pourrait faire juridiquement adopter la même règle. Mais il faudrait qu'il y ait une poussée absolument massive de l'opinion dans un sens ou dans un autre. Et là, les Américains sont partagés.
Très divisé,
en effet,
oui.
le principe fédéral est une difficulté supplémentaire, puisque vous avez des États beaucoup moins peuplés que d'autres et qui néanmoins ont les mêmes droits sur ce plan-là.
Mais le chemin va être long. Je rappelle qu'il y a eu 213 fusillades aux États-Unis depuis le début de l'année, soit une moyenne
de 10 par semaine. Première cause de décès pour les enfants.
Exactement.
Arme à feu.
On en vient à la situation dans l'est de l'Ukraine sous un déluge de feu des Russes qui intensifie encore davantage leur offensive. Hier, une dizaine de personnes ont été tuées à Dnipro. La ville de Severodonetsk, elle, est quasiment encerclée, en grande partie détruite. Le point sur la situation, Mathilde Moreau.
Mikhailivka, au sud de Donetsk, sous le feu des bombes. À une centaine de kilomètres au nord, la ville de Bakhmout a été visée, elle aussi, par des tirs de missiles hier. Contraints, certains habitants ont décidé de fuir. Une lourde décision, selon ce membre d'une association d'aide aux réfugiés.
J'avais à bord un vieil homme d'environ 90 ans et nous l'avons littéralement sorti de la cabane où il était né. Il était terrifié par les bombes et les missiles.
Des situations qui se répètent dans le Donbass ces derniers jours. Les frappes s'y intensifient. Les forces pro-russes affirment avoir pris possession de Liman et avoir encerclé totalement Severodonetsk. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelle la détermination de son peuple.
Nous protégeons notre territoire dans la mesure où nos ressources actuelles de défense le permettent. Nous faisons tout pour le renforcer et nous le renforcerons. Si les occupants pensent que Liman et Severodonetsk seront à eux, ils ont tort. Le Donbass restera ukrainien.
Si la prise de Liman est avérée, cela permettrait aux forces russes de se rapprocher de deux grandes villes de la région, Sloviansk et Kramatorsk.
Comme à Mariupol, on voit des villes privées de tout, quasiment complètement détruites, privées d'électricité, de moyens de communication, des villes vidées de leur population. Ça montre, Guillaume Bigot, la stratégie de Vladimir Poutine, qui est toujours la même, c'est vider la région de ses habitants, éventuellement la remplacer par des Russes. C'est ce qu'il appelle la russification. Et en parallèle, en face, Volodymyr Zelensky qui dit non, c'est pas de la russification, c'est un génocide.
Alors, la situation est d'abord complexe sur le plan militaire. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire en situation de guerre, l'information sur la guerre fait partie de la guerre elle-même. Donc, elle est vraiment à prendre avec des pincettes. Deuxième, je pense, chose qu'on doit vraiment avoir à l'esprit, c'est que le temps médiatique n'est pas du tout le temps militaire. Les choses forcément avancent très lentement sur le plan militaire. Et là, à chaque fois, on veut de l'information fraîche, nouvelle, actualisée. Ce qu'on peut savoir, et ça a été confirmé par des sources de l'armée française, c'est que les Russes avancent sur quasiment tous les fronts de ce nord des oblasts-là. Ils avancent, et ils avancent pour la raison que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un déluge de feu qui s'abat sur les défenseurs ukrainiens. Ils ne vont pas directement en contact, ils bombardent avec de l'artillerie, avec des missiles, etc., etc. Donc on peut se dire que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, en effet, qu'à Mariupol, et qu'autant... la bravoure, l'équipement militaire d'ailleurs occidental avec des moyens défensifs hein, peut vraiment faire la différence face à une armée russe comme on avait eu l'armée russe autour au début de Kharkov ou surtout autour de Kiev, c'est-à-dire des fantassins tendent des pièges et surtout face à une armée russe qui n'était pas une armée qui était faite pour tout écraser mais une armée pour prendre le contrôle, voire limite un peu comme 1956 à Budapest, c'est-à-dire pour sorte de punir le régime sur place et faire tomber psychologiquement le régime sur place. Je dirais une opération un peu militaro-policière. Donc là, effectivement, la défense et le courage ukrainien faisaient la différence, mais face à une puissance de feu aussi massive et aussi roulante, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a bien sûr de la bravoure, mais elle ne sert pas à grand-chose si les gens sont écrasés par des déluges de bombes.
Donc quand Volodymyr Zelensky dit « le Donbass restera ukrainien », c'est simplement pour... continue à mobiliser les troupes et l'opinion occidentale.
C'est ça, c'est peu probable, sauf à ce qu'il y ait des armements lourds, et notamment aériens, etc., qui arrivent. Mais l'enjeu, là, on peut dire stratégique, c'est qu'il y a beaucoup d'armes. Alors, il y a des effets d'annonce. Quand on entend 40 milliards, dont 25 milliards votés par les Américains pour acheminer 25 milliards. C'est quand même quasiment la moitié, 30 milliards, en tout cas, c'est la moitié du budget russe de la défense que les Américains vont donner en aide militaire aux Ukrainiens. Mais c'est un peu des effets d'annonce, parce qu'encore faut-il, un, que ces armes arrivent, et que même si elles arrivaient, depuis la Pologne, depuis la Roumanie, etc., il faudrait encore qu'elles soient acheminées sur le champ de bataille. Et là, on a des vulnérabilités parce que les Russes ont encore beaucoup de missiles. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand les chemins de fer ou les gares, malheureusement, avec énormément de victimes civiles, ou dans des villes où, a priori, il n'y a pas de bombardement russe. Et d'un seul coup, vous apprenez qu'il y a une pluie de missiles, qu'il y a d'ailleurs des blessés et des morts civils. Mais c'est parce qu'il y a un dépôt d'armement et que les Russes ont été informés qu'il y a un dépôt d'armement. Donc le problème, c'est que ces armes, elles existent, elles sont livrées, mais elles n'arrivent pas encore aux combattants. Donc c'est pas sûr du tout, effectivement, que l'avancée russe dans le Donbass puisse être stoppée.
Et cette russification, Guillaume Perrault, elle va finir par avoir lieu. On imagine que peu de personnes voudront se rendre dans des villes qui sont complètement détruites.
Oui, alors c'est assez difficile de se prononcer sur ce point, parce que depuis 2014 et le conflit de basse intensité, disons, qu'il y avait dans ces régions, vous avez, semble-t-il, 1 million d'habitants du Donbass qui a fui vers la Russie et au moins l'équivalent vers l'Ukraine. Et c'est probablement pas pour des raisons, disons, de politique ou idéologique, mais très matérielles, parce qu'ils ont de la famille et pour les accueillir d'un côté ou de l'autre, ils ont des perspectives matérielles d'un côté ou de l'autre. Donc ça peut se reproduire. Le scénario vers lequel on me semble s'acheminer, le plus vraisemblable, c'est un conflit gelé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Russes considéreront qu'ils ont conquis le Donbass, qui, de leur point de vue, je ne dis pas que c'est ce que je pense moi, mais de leur point de vue, est soviétique dans sa culture, et donc plus facilement assimilable à la Russie que les autres régions de l'Ukraine, eh bien, ils peuvent se borner à une position défensive. Et on sait que l'état de guerre, c'est quelque chose dans lequel Poutine se plaît. Donc, il peut très bien considérer qu'il y ait un conflit désormais purement défensif entre les Ukrainiens et lui, et personne en mesure de l'emporter clairement sur l'autre, est quelque chose qui, finalement, il pourrait s'accommoder.
C'est un scénario qui vous semble aussi crédible, Guillaume ?
Oui, bien sûr. Et il ne faut pas du tout compter sur, disons, le respect par les Russes, ni du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et encore moins des libertés individuelles, ça va sans dire. On ne pouvait déjà pas compter sur les Ukrainiens pour respecter ça, alors encore moins sur les Russes. Les Ukrainiens étant quand même un peu plus avancés sur le chemin de la démocratie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, c'est important aussi d'avoir cette perspective. Pour nous, l'épuration ethnique, c'est ce qu'il y a de plus horrible, parce que ça nous renvoie à la Shoah. Et quand on a eu, parce qu'on dit l'Europe c'est la paix, mais non, l'Europe n'a pas du tout empêché, par exemple, le cauchemar et le bain de sang que fut la guerre en ex-Yougoslavie, où il y a eu de l'épuration ethnique cauchemardesque. Et donc, nous, c'est la perception que nous avons de l'épuration ethnique à l'Ouest. Du côté de l'Est, du côté de la mémoire, disons, de l'armée rouge, de l'Union soviétique, etc., bizarrement, ça a été plutôt un facteur de paix et de stabilisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils ont déplacé les frontières de quasiment 1000 km. Ils ont fabriqué, par exemple, Staline, dans toute son horreur, a donné une frontière à la Pologne, qui n'aurait jamais eu de frontière, et a déplacé des dizaines de millions d'Allemands, de sorte à ce que les Allemands soient chez eux en Allemagne, les Polonais soient chez eux en Pologne. Alors, je ne suis pas en train de le justifier, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Simplement, comme eux ont libéré les camps, eux ont arrêté le nazisme et ont détruit la machine de destruction de la Shoah, ils n'ont pas mauvaise conscience, et en plus, ils ont l'impression d'avoir donné des frontières à tout le monde. Donc là, ils sont en train de dire, finalement, voyez, si vous êtes russe et pro-russe, vous restez ici. De toute façon, il y a une majorité de Russes. Alors, le problème, c'est que c'est des russophones, mais ils ne sont pas nécessairement pro-russes, c'est le problème. Mais enfin, vous restez ici. Si vous n'avez pas envie d'être ici, partez à l'ouest. Alors, partez soit du côté ukrainien, soit demandez l'asile dans les pays occidentaux. Ils vous donneront de quoi survivre.
Au-delà de l'Ukraine, il y a cette guerre entre occidentaux et russes, en tout cas celle que met en avant Sergueï Lavrov. Je voudrais qu'on écoute le chef de la diplomatie russe qui a eu quand même des mots saisissants hier.
Нам объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто и не скрывает.
Dans de nombreux pays occidentaux, la russophobie quotidienne est devenue sans précédent, ce qui, à notre grand regret, est encouragé par les cercles gouvernementaux de plusieurs pays. L'Occident a déclaré une guerre totale contre la Russie. Personne ne le cache maintenant. Cette situation va durer longtemps.
Можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго.
Bon, c'est ce qu'ils disent finalement depuis le début, Guillaume Bigot, mais c'est cet adjectif total associé à guerre, guerre totale, c'est ce qui nous fait peur. Très
concrètement. Non, mais c'est là où ça ne va pas. Je pense que s'il avait utilisé le terme de guerre hybride, ça aurait du sens. Et de fait, les Russes mènent une guerre hybride et nous menons, à travers les Ukrainiens, mais pas seulement, une guerre hybride contre la Russie, ça me semble indiscutable. Guerre hybride, c'est par exemple une guerre qui utilise les hackers. Vous avez, un peu comme Wagner, vous voyez, Wagner ne sont pas directement des soldats russes, mais sont des milices. Bien, nous utilisons, enfin les Américains, notamment l'OTAN, utilisent des hackers qui ont attaqué, par exemple, les chaînes de télévision pendant la parade du 9 mai, de sorte que ça a été complètement pourri.
Le jour de la victoire.
Mais de la guerre, du côté des Russes, ils ont également utilisé des hackers, ils le font là au Costa Rica, ils l'ont fait pendant l'Eurovision. Vous voyez, pour empêcher la diffusion de l'Eurovision. Donc c'est une guerre tous azimuts, c'est une guerre hybride, c'est vrai, la guerre monétaire, de part et d'autre. Les Russes disent, bon, on arrête de vous payer en euros, les autres disent, bon, bah, les roubles, on n'accepte pas, etc., et ainsi de suite. Quand vous entendez un Bruno Le Maire qui dit, notre envie, enfin, ce qu'on veut faire, nous, c'est la guerre totale à la Russie et mettre la Russie économiquement à genoux. Quand vous entendez Biden dire, le boucher Poutine, il ne peut pas rester, son régime doit tomber, on voit bien que, du point de vue de la propagande aussi, c'est une guerre totale, de part et d'autre.
Mais ce qui fait craindre une guerre totale réelle, Guillaume Perrault.
Alors, il faut quand même voir que certains débordements, comme par exemple l'annulation d'artistes russes qui étaient programmés dans les pays occidentaux, Lavrov fait allusion à ça, sert de prétexte à la propagande russe pour un vieux classique qui est de se présenter en agressé et non pas en agresseur.
L'Ouest ne nous aime
pas. Il essaie de renverser les rôles. C'est une vieille tradition chez les autorités russes qui est de flatter la paranoïa. Le monde entier est contre nous, tout le monde nous en veut. Ce que nous faisons est toujours justifié et purement défensif. Alors que par exemple, on a des méchants autour de nous. Dans un style plus relevé, vous savez, le héros de la littérature russe qui est Pushkin, il n'a pas dit quelque chose de fondamentalement différent dans un poème que tous les écoliers apprennent qui s'appelle « Au calomniateur de la Russie ». Au calomniateur de la Russie, c'est 1831. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Russes ont écrasé dans le sang une insurrection à Varsovie, une insurrection des Polonais. L'Europe s'est émue, il y a eu des débats à Paris pour savoir s'il fallait intervenir militairement pour aider les Polonais contre les Russes, et Pushkin met en garde dans ce poème les Occidentaux en disant « laissez-nous régler nos comptes en paix entre Slaves ». Dans un registre beaucoup plus distingué, évidemment, c'est pas très éloigné de ce que dit Lavrov.
Bravo à Guillaume Perrault, il a totalement raison, et un des derniers textes de Solzhenitsyn, il dit « si vous touchez à l'unité entre les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens, nous, Russes, on prendra des bâtons pour vous taper dessus ».
Il est 9h moins le quart, dans un instant on parle des législatives, juste après les titres, Elisa Lukavski.
Fin des débats dans le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard. Le jury s'est retiré hier pour délibérer dans ce procès ultra médiatisé sur fond d'accusations mutuelles de violences conjugales. Les jurés reviendront mardi au tribunal pour annoncer leur décision. Quelques allègements dans un confinement qui n'en finit pas. En attendant la fin du confinement de la ville de Shanghai, c'est pour mercredi, des lignes de bus, mais aussi 30 parcs ont rouvert hier, même si leur capacité de visiteurs reste limitée. Même chose pour certains commerces de la ville. Et puis ça passe pour les favoris à Roland-Garros, qualification 8e de finale de Rafael Nadal, le numéro 5 mondial, 13 fois vainqueur du Grand Chelem français qui a dominé en 3 manches, le néerlandais Van de Zandschulp. Ça passe également en 8e de finale pour le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, lui aussi vainqueur en 3 manches du Slovène Aljaz Bedene.
Merci Elisa. La politique en France avec les élections législatives, premier tour dans 2 semaines le 12 juin, second tour le 19 juin. On ne dirait pas vraiment qu'on est dans une... Guillaume Bigot et Guillaume Perrault me regardent en disant non. Effectivement, on ne se sent pas vraiment dans une campagne électorale. C'est moins qu'on puisse dire. Elle a du mal à démarrer, cette campagne. Elle est en plus très courte. Je voudrais vous soumettre à un sondage IFOP pour le journal du dimanche qui date de cette semaine, où plus d'un électeur sur deux, 52% exactement, déclare ne pas avoir l'intention de se déplacer le 12 juin pour élire leurs députés. Ça serait la deuxième fois sous la Ve République que l'abstention pourrait être majoritaire au premier tour des élections législatives. Qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Bigot? Est-ce que finalement, on n'assiste pas, comme ça a été quand même à la présidentielle ou aux dernières présidentielles, une banalisation des scrutins?
Oui, mais c'est un peu, si vous voulez, l'idée de s'inquiéter, et on a raison tout de même de le faire, de la montée continue de l'abstention, c'est bien. Arrêter de faire tout ce qu'il faut pour faire monter l'abstention, ce serait mieux. c'est-à-dire de nous faire 3 jours, et je m'inclus dedans, parce que si commenter ça, 3 jours sur les armes aux États-Unis, etc., sans dire un mot des élections législatives qui arrivent à grands pas, le gouvernement qui dit « il faut aller voter », qui ne donne absolument aucune ligne claire de ce que va être le programme, de ce que va être l'enjeu des législatives. Vous avez juste
Borne qui se déplace. Hier, qui parle du pouvoir d'achat, du climat et de la santé dans les thématiques et en parlant du pouvoir d'achat.
Thématiques très clivants, etc. Enfin, bon, on a bien compris. Avec et donc on a déplacé Madame Borne. Alors on voit Madame Borne dans un préau, on voit Madame Borne dans un vide-grenier, on voit Madame Borne. Enfin, c'est Big Jim. On la déplace comme ça, etc. On la filme. Elle ne dit quasiment rien. Si vous voulez, c'est absolument vide. Donc on crée des conditions pour que ça soit absolument inintéressant au possible et soporifique. Et après, on s'étonne que les gens n'aient pas envie de voter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui fait de la politique pour le coup, c'est Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a profité de ce vide intersidéral. Et là, lui, il y va avec la grosse caisse, le mégaphone, les casseroles, ce que vous voulez, parce que la NUPES, tous les jours, on entend parler. Tous les jours, ils ont une trouvaille. Tous les jours, ils ont un bon mot. Et moi, je pense qu'à un moment...
Bah, ils font campagne, en tout cas.
Ils font campagne. Et on va peut-être être surpris du résultat, parce que le calcul du gouvernement, c'était former le gouvernement le plus tard possible, en parler le plus tard possible, rentrer en campagne le plus tard possible. Même stratégie que la présidentielle. N'en parlons pas. Et puis, il va y avoir une espèce de réflexe conditionné des gens qui veulent que ça ne change pas. Tout ce qui est en place depuis 40 ans, ça continue encore. Ce que j'appelle les marcheurs blancs, hein, notamment les électorats âgés. Donc, ils vont aller tout seuls voter comme des zombies. Voilà, c'est ça l'idée. Et que ces gens-là, ils votent énormément. Alors, ils ont le droit de voter. Hein, je veux pas, c'est une expression entre guillemets. Hein, je ne veux pas leur manquer de respect. Mais grosso modo, ils tablaient sur ce réflexe conditionné, en se disant il ne va pas trop se passer grand-chose. Alors c'est vrai, du côté de Rassemblement National et du côté de RN, il ne se passe pas grand-chose parce qu'ils se divisent, mais du côté des NUPS, comme on dit, là, il se passe des choses et il pourrait y avoir des surprises à l'arrivée.
Guillaume Perrault, ce risque de très forte abstention, ça peut changer la donne du quinquennat ?
Oui, il y a une raison aussi institutionnelle, c'est que les législatives interviennent.
C'est l'inversion
juste
du calendrier électoral. Hein,
c'est la fameuse inversion du calendrier depuis 2002, ça fait 20 ans qu'on vit ça. Et beaucoup de Français considèrent que c'est une simple confirmation, ratification du choix qui a été fait à la présidentielle. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il va y avoir un différentiel d'abstention, ou pour parler plus simplement, est-ce qu'il va y avoir une abstention différente selon les familles de pensée ? Traditionnellement, ceux qui votent Mélenchon ou Marine Le Pen s'abstiennent davantage parce qu'ils sont découragés. Et c'est très net pour l'électorat de Marine Le Pen, qui est particulièrement typé sociologiquement. L'électorat populaire, si leur championne perd à la présidentielle, a tendance à rester chez soi. Et ça explique aussi, ce n'est pas seulement le mode de scrutin, ça explique aussi le faible nombre de députés du FN puis du Rassemblement National. Voilà. Mélenchon est aussi exposé à ce risque. Et comme il le sait parfaitement, c'est une des raisons qui explique qu'il a créé des alliances et qui clive à tout prix, qui fait de la polémique permanente sur tout et n'importe quoi pour occuper le terrain. Je crois d'ailleurs qu'il est un peu moins efficace depuis quelques jours quand même, parce qu'il y a une usure. Parce que,
il a démarré très tôt.
Hein, agressif tout le temps, d'être dans le conflit permanent, ça peut aussi lasser. Ça peut aussi paraître artificiel, donc c'est un risque. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on va vers 50% d'abstention, ce qui est plausible, il faudra 25% des voix, des suffrages exprimés dans une circonscription pour accéder simplement au deuxième tour. Donc c'est très élevé.
Colossal.
Il y aura beaucoup de gens qui resteront sur le carreau, même des élus qui ont derrière eux un parti jusqu'ici important pour les soutenir.
Guillaume Bigot et Emmanuel Macron est très en retrait aussi de cette campagne.
C'est une stratégie. On a bien compris que c'est une stratégie. Elle aurait pu s'avérer payante peut-être dans un autre contexte politique. Là, je pense que de toute façon, si on regarde la photo de l'électorat avant et au moment des présidentielles, et notamment du premier tour, on se rend compte qu'il y a quand même un éparpillement façon puzzle de l'électorat. Vous n'avez pas une majorité du tout acquise au président de la République. Vous aviez un petit référendum anti-Marine Le Pen au deuxième tour qu'il a renforcé, certes, mais ce qu'il pèse, lui, c'est un tiers. Et vous avez ensuite des gens qui sont un peu moins forts, qui sont le RN et la France insoumise, mais il y a quand même un éparpillement. Donc d'une certaine façon, je sais bien qu'il y a cette logique des institutions et du quinquennat maintenant qui est de dire « mais finalement les gens ne vont pas se dédire, ils viennent d'élire un président de la République, ils vont forcément donner une majorité dans la foulée », sauf que comme il n'y a pas de campagne, il n'y a pas le moindre effort qui est fait, ou très peu à minima pour faire campagne, on pourrait ne pas avoir de majorité présidentielle. Auquel cas, on s'acheminerait, c'est peut-être pas vers une crise de régime, mais vrai, un coup de théâtre politique. C'est-à-dire que si le président de la République, qui vient d'être élu au début de son mandat, n'a pas de majorité pour gouverner, alors là, on entre dans l'inconnu. Vous voyez, c'était le fameux Mac Mahon, parce que contrairement à ce qu'on pense, la Troisième République avait donné beaucoup de pouvoir au président de la République, sauf qu'il n'avait plus de majorité à l'Assemblée, il a été obligé de se démettre.
D'Amaury Guillaume Perrot, c'est un scénario que vous pouvez envisager ?
Je ne pense pas. Il y aura une majorité au moins relative. Il peut ne pas y avoir de majorité absolue. C'est ce qui s'est passé en 88. Mitterrand n'avait pas une majorité absolue de députés PS. Il avait besoin de l'appoint, soit des centristes, soit des communistes, au coup par coup. Et Rocard, son premier ministre de l'époque, a gouverné à coup de 49-3 sans arrêt. Ça peut se produire aussi.
Je peux répondre à ça parce que c'est très intéressant.
Très vite.
Secondes. Bah, moi, je pense que Guillaume Perrot a tout à fait raison. C'est très peu probable tout de même. Mais par contre, l'idée qu'il pourrait y avoir aux marges comme ça des gens pour apporter la majorité, c'est pas sûr parce que les autres élus vont tout de même être assez incompatibles avec le macronisme.
Je vais vous demander de vous jeter à l'eau. Vous avez 30 secondes pour faire des pronostics sur cette finale. Je sais que c'est votre sujet favori à tous les deux, les deux Guillaume. Finale de la Ligue des Champions, c'est quand même un grand rendez-vous. Ça devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg. Pour cause de guerre en Ukraine, c'est au Stade de France. Il y a tout un dispositif de sécurité face à l'afflux de supporters. A priori, l'ambiance est pourtant, pour l'instant, bon enfant. Real Madrid de Karim Benzema d'un côté, Liverpool de l'autre, à suivre évidemment dans une soirée exceptionnelle sur Canal+. Guillaume.
Écoutez, je vais avoir un réflexe un peu patriotique, comme il y a Benzema qui joue au Real de Madrid, donc je suis pour le Real de Madrid. Et en plus, je trouve que cet homme qui était assez agaçant il y a quelques années
est totalement mûr,
d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue footballistique, si j'en crois les aficionados.
Alors, une victoire pour le Real, ce serait la 14e en Ligue des Champions pour Guillaume Bigot, Guillaume Perrot.
Alors, vous savez, dans la vie d'un bon élève, il y a une hantise, c'est est-ce qu'on l'interroge sur le sujet, le sujet.
Non, c'est vous quand même. Les spécialistes se trompent.
Par esprit de contradiction, je vais dire l'autre club.
Alors, rendez-vous demain, on verra lequel des deux l'a emporté.
Et puis on
l'a
parce que vous êtes très calé.
Merci beaucoup à tous les deux. Guillaume Perrot, on vous retrouve très bientôt. Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end sur CNews et pour les auditeurs d'Europe 1. Vous avez rendez-vous avec Raphaël Delvolvé et Frédéric Taddeï. Bon samedi.
Merci Isabelle Moreau. À demain, on accueille Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a au programme, Frédéric ? Bonjour à vous.
Bonjour Raphaël, je reçois Alexandre Rode. C'est le spécialiste français des massacres en milieu scolaire, comme celui qui vient d'avoir lieu au Texas. Giuliano D'Ampoli, lui, il a beaucoup à nous apprendre sur Vladimir Poutine. Et Jean-Philippe de Rosier sur les élections législatives.
C'est bien noté. À tout à l'heure, Frédéric, dans un instant sur Europe 1, le journal de 9h, combattre des fusillades en armant la population. C'est la curieuse méthode Trump pour lutter contre les tueries comme celle qui a récemment eu lieu au Texas. Nous en parlons à 9h pour le journal.